Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 mai 2026 et vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous enseigne dans la 8e partie du thème ce monde que nous devons haïr. Deux textes de référence feront l'ouverture de la méditation de ce jour, à savoir 1 Samuel 8, versets 1 à 22 et 1 Jean 5, verset 19. Nous lisons 1 Samuel 8, versets 1 à 22. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger » et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur nous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000, des chefs de 50 et les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Il la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils. » Mais il y aura un roi sur nous, et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel, « Écoute leur voix et établis un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël, « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous progressons dans l'examen des tentacules de la pieuvre qu'est le système satanique et antéchrist appelé le monde. Dans les méditations précédentes, nous avons analysé les tentacules symbolisés par Babylone, l'Égypte, Sodome et la Grèce. Pour rappel, le tentacule babylonien représente la ligne ou l'aspect du monde qui a trait aux spiritualités et aux croyances qui éloignent l'humanité de Dieu. Le tentacule égyptien représente la ligne des mauvaises manières et méthodes que l'on adopte afin de solutionner les besoins vitaux. Le tentacule qui s'apparente à Sodome fait référence aux déviances sexuelles, aux pratiques sexuelles coupables, abominables, avilissantes et forcément condamnables. Le tentacule grec, quant à lui, fait allusion à la façon dont Satan détourne à son profit la science, la philosophie, la culture et l'art. À présent, nous porterons notre attention sur le tentacule qu'incarne Rome, le tentacule de la politique. La politique, dans son essence et sa vocation première, ramène à l'organisation, à l'exercice des fonctions visant la gestion de la cité. Elle se préoccupe et s'assure d'un vivre ensemble harmonieux et œuvre à promouvoir le bien-être et l'épanouissement des habitants de la cité. La politique n'a rien d'optionnel. Elle est une nécessité, car il ne peut pas exister de cité qui ne soit pas organisée, et il n'y a pas d'organisation qui ne nécessite pas d'autorité qui en assure le fonctionnement et la gestion. Mais ce qui était simple autrefois deviendra de plus en plus complexe avec l'évolution de l'humanité. Différentes formes d'organisation et de gestion ont fait leur apparition. La politique prendra alors une toute autre envergure avec la naissance des monarchies et plus tard des nations. L'évolution de l'organisation du peuple élu de Dieu, telle que rapportée dans la Bible, nous fournit une belle illustration sur comment l'humanité est passée de la simple gestion de la cité à quelque chose de plus complexe, avec des contours à peine appréhendables ou saisissables. Voici le schéma de l'évolution d'Israël. Trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Une famille, celle de Jacob, comportant 70 personnes. 12 tribus, composées de plusieurs millions de personnes. Des juges établis sur l'ensemble des tribus, c'était la théocratie. Le dernier juge fut Samuel. Israël devint une monarchie. Suite à la captivité et à la domination des différents rois étrangers, Israël devint un gouvernorat. Israël est à présent une nation avec à sa tête un président et un premier ministre. Toutes les nations n'ont pas forcément suivi la même trajectoire, mais aujourd'hui on a, de façon générale, sur l'ensemble des pays qui existent, soit des monarchies, soit des nations. Par conséquent, la politique est devenue autre chose que la simple organisation ou gestion de la cité. Elle n'est pas seulement devenue complexe, mais elle a pris l'envergure d'un monstre à plusieurs têtes, la société humaine étant elle-même devenue une jungle. Cela ne vous fait-il pas penser au roman satirique de George Orwell, La ferme des animaux ? Certes, il décrivait une société spécifique, mais cette satire peut bien être appliquée à toutes les sociétés ou nations partout ou sur la terre des vivants. Car nous devons reconnaître que la politique est devenue méconnaissable. Elle rime avec mensonge, démagogie, tromperie, crime, assassinat. Dans son livre « Logocratie », Clément Viktorovitch a à travers un portrait réaliste du langage ou du discours politique, nous offre un aperçu de ce que le langage politique est devenu. Depuis plusieurs années, en de nombreux endroits du globe, nous assistons à une multiplication vertigineuse de ce qu'il faut bien se résoudre à appeler des mensonges gouvernementaux. Non des approximations trompeuses, ni de dissimulations honteuses, mais bien des contre-vérités assumées. Le mensonge se banalise. Les gouvernements ne l'emploient plus par nécessité, mais par commodité, par confort, voire par réflexe. Le scandale ne scandalise plus. L'indignation s'épuise. Et dans cette résignation, la déloyauté prospère. Aujourd'hui, on a l'impression que les élites au pouvoir sont mentorées par Nicolas Machiavel. Pour elle, ce qui compte, c'est la fin. Une fin qui ne profite qu'à elle, car contrairement à l'idéal démocratique, le peuple dans les nations n'est pas seulement ignoré, mais il est réprimé et sacrifié sur l'autel des ambitions, de l'ego, de l'appât du gain. Ce qui motive et gouverne l'action politique, ce n'est pas le bien-être du peuple ou le vivre ensemble harmonieux, mais c'est l'enrichissement et le confort d'une minorité qui n'a de préoccupation que ses propres intérêts. C'est ainsi que la politique est devenue un art de travestir la réalité, de déformation des faits, de substitution du fictif au réel. La tromperie et la dictature sont devenus les moyens pour assurer une pseudo-stabilité, des circonstances qui leur permettent d'assouvir leur avidité sans opposition. De nos jours, on assiste à une manipulation à outrance de l'histoire afin qu'elle serve les intérêts idéologiques de ceux qui gouvernent. C'est ainsi que, quand les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne, ils ont changé les manuels scolaires afin d'inculquer leur idéologie à la jeunesse. Le Seigneur, notre Maître, avait clairement décrit ce qui se passe dans les nations déjà en son temps. Dans Matthieu 20, versets 25 et 27, il dit « Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » C'est cela le vrai visage de la politique dans le système luciférien. Est-ce à dire que les enfants de Dieu ne doivent pas faire la politique? Non, il y a un modèle politique qui est selon Dieu. Ce modèle, Christ l'a enseigné. Dans Matthieu 20, versets 26 à 28, il est écrit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Matthieu 20, 26 à 28. Ce modèle tranche radicalement avec ce que nous voyons aujourd'hui, autour de nous. Par conséquent, si un enfant de Dieu a la possibilité d'assumer une responsabilité politique, cela doit être l'occasion de montrer ce que la politique doit être aux yeux de Dieu. Servir à l'épanouissement des humains pour le compte et la gloire de Dieu. À retenir, le tentacule représenté par Rome parle de la politique qui profite in fine au clan luciférien. La vraie politique consiste à organiser et à gérer la cité en vue du bien-être des citadins. La politique, selon le monde, est un tissu de mensonges, de tromperies, de manipulations à des fins égoïstes. La politique, selon Dieu, sert à l'épanouissement de l'humain pour la gloire de Dieu. Que la sagesse de Dieu nous habite et nous conduise, dès que possible, à montrer par l'exemple ce qu'est la politique selon Dieu. Consacrons-nous davantage au Seigneur en vue des exploits que nous sommes appelés à accomplir avec Dieu selon Psaume 60, verset 14. Excellente journée à chacune et à chacun. Signé, votre serviteur, le Dr Jean-Claude Coffi, ce mercredi 6 mai 2026.